Europe 1,
la France bouge. Elisabeth Assayag.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans La France Bouge. Nous avons une heure pour découvrir des talents, de l'audace, des idées, des femmes et des hommes qui accompagnent les changements de notre société. La France Bouge, c'est votre rendez-vous des entrepreneurs et de nos pépites françaises. Au sommaire de votre émission, depuis 25 ans, une grande fondation pour le petit patrimoine. C'est la Fondation du patrimoine qui a été créée pour mobiliser tous ceux qui veulent aider le patrimoine rural et non protégé des petit village jusqu'à l'église de Notre-Dame. Elle est partout en France grâce aux dons des mécènes, mais aussi des particuliers. Quel est son rôle pour faire en sorte que la France soit toujours plus belle? La directrice générale de la Fondation du patrimoine est l'invitée de La France Bouge. À la une, s'immerger dans une bulle sonore pour découvrir notre patrimoine et nos lieux culturels, c'est possible grâce à Aken. C'est la start-up du jour et on la découvre d'ici quelques minutes. Ensuite, je vous emmène à la maison du vitrail créée par un couple en 1960. On va découvrir le métier de maître verrier à 13h30. Ensuite, le pitch des trophées Europe 1 de l'avenir avec notre partenaire la CCI et bien sûr Nathalie Carré. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth. Alors aujourd'hui, on va recevoir Graal. C'est pas le Graal, c'est une application géolocalisée qui rend l'information culturelle vraiment accessible à tous.
Et puis en fin d'émission, demain au travail, on va passer un coup de fil à la fondatrice d'Omar. Elle fait tout pour sensibiliser les salariés à l'art et il paraît que ça marche. C'est ça, La France Bouge. Bienvenue. Vous pouvez nous suivre sur europe1.fr. C'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. La France Bouge, toutes ces entreprises qui innovent, ces initiatives positives, c'est ici à La France Bouge. Et aujourd'hui, on va visiter notre patrimoine français avec le premier acteur de la générosité en faveur du patrimoine. On en parle jusqu'à 14h. Avec vous, Célia Véro, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans La France Bouge. Vous êtes la directrice générale de la Fondation du patrimoine. La Fondation du patrimoine, c'est privé et vous soutenez la restauration du patrimoine local non protégé par l'État. Cette fondation est financée par des donateurs, des mécènes et aussi par le loto du patrimoine. Elle a été créée il y a 25 ans pour mobiliser tous ceux qui veulent aider le patrimoine rural. Vous avez accompagné, je crois, plus de 35 000 restaurations et c'est vous qui avez inventé, on peut le dire, le mécénat populaire ainsi que le financement participatif. Célia Véro, comment ça va pour notre patrimoine après deux ans de crise sanitaire?
Alors le patrimoine en France, ça fait longtemps qu'il y a des besoins urgents de restauration et d'investissement, donc c'est notre combat depuis 25 ans. Et effectivement, on a développé de très nombreux projets partout en France parce qu'on investit surtout les zones rurales. Et ce patrimoine qui est un petit peu méconnu ou délaissé, pourtant très cher au cœur des Français et puis aux touristes internationaux. Alors évidemment, ce patrimoine, il a souffert pendant la crise sanitaire d'une certaine manière d'un manque de visite. Visite, c'est quand même le financement. Mais en même temps, il y a eu énormément de travaux qui se sont faits.
Il y avait des chantiers qui étaient en cours, qui se sont arrêtés.
Les petits chantiers, en fait, ils ont redémarré très vite. Nous, on a pu aussi, avec l'aide du ministère de la Culture, mettre plus de moyens sur le patrimoine. Ça fait quelques années qu'on développe notre activité. On a multiplié par 3 nos financements. Et donc, d'une certaine manière, en fait, on a profité de cette pause, des visites pour faire plus de travaux et donc sauver plus de patrimoine. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Donc, finalement, ça a été positif, voilà. Cette crise.
Oui.
Dans cette période, vous avez pu voir que le patrimoine, c'est un vecteur de relance économique. Vous avez distribué plus de 65 millions d'euros d'aide pour plus de 2000 projets. Vous, votre réelle particularité, vous l'avez dit, c'est les petits chantiers. Donc, c'est le patrimoine rural. C'est dans les campagnes, c'est dans les villes beaucoup plus éloignées.
Exactement, parce qu'en France, bon, on a des monuments nationaux qui sont magnifiques, qui sont en région parisienne, dans les châteaux de la Loire, on les connaît. Ils vivent très bien, ils ont énormément de visiteurs, sauf pendant la période de la crise sanitaire. Et puis, il y a tout ce patrimoine local, ce patrimoine régional, qui en fait fait la beauté de notre pays. Mmh. C'est aussi notre histoire, la France des villages.
Des petites églises.
On y est très attaché.
Isolé.
Voilà. C'est tout ça, c'est ces petites églises, ces moulins, ces fermes. Du patrimoine naturel aussi, puisqu'on travaille aussi sur des espaces naturels et la protection de la biodiversité. Et tout ça, c'est très cher au cœur des Français, des visiteurs, mais il y a besoin d'investir, parce que en général, ces lieux sont entre les mains, dans la propriété de petites communes ou de particuliers.
Ils appartiennent soit à des collectivités, des locales, soit à des particuliers qui n'ont pas forcément les moyens d'entretenir
il y a des gens qui se bougent, il y a des maires qui font beaucoup, mais l'échelle des moyens nécessaires pour restaurer ce patrimoine n'est pas forcément à leur mesure. Et nous, on vient pour les aider et aussi pour mobiliser la population et les entreprises, ce qui fait un mouvement de réappropriation. Mmh. C'est très participatif, c'est-à-dire que lorsqu'un élu, par exemple, veut faire un projet de patrimoine, il se demande est-ce que c'est ça le bon choix, est-ce qu'il ne faut pas plutôt faire un investissement ailleurs, une MJC ou autre chose. Et en fait, le fait que la population soutienne ce projet, que les entreprises locales viennent aussi participer, eh bien, tout le monde se dit c'est légitime, il faut le faire.
Nathalie Carré.
Alors, ça serait quoi le parcours en fait pour une collectivité ou pour un particulier pour obtenir votre aide? Il y a un dossier, il y a une sélection, enfin c'est long. Comment ça fonctionne concrètement pour avoir votre aide?
Alors, comment ça fonctionne? On a sur tout le territoire, dans tous les départements, des antennes avec des bénévoles qui sont nos délégués locaux et qui vont à la rencontre justement de ces propriétaires, de ces élus, pour les accompagner dans le parcours de la restauration du patrimoine. Évidemment, il y a des aides et des subventions publiques, en particulier pour les monuments qu'on appelle les monuments classés ou inscrits, protégés par l'État. Mmh. Mais nous, on aide tous les types de lieux, donc qu'ils soient protégés par l'État ou autre. Et on va les aider à mobiliser à la fois ces financements extérieurs, publics, et puis donc la générosité locale, ou quand c'est des sites qui ont un intérêt plus fort, une générosité qui peut être nationale ou internationale, ça existe aussi. Et on a différentes sources de financement, donc les collègues de dons, des mécènes, des petites entreprises, des grands mécènes nationaux qui nous accompagnent, qui sont des grandes entreprises comme AXA, comme Dassault, comme Total. Et puis des partenariats avec les régions, avec les départements.
Mais
donc, tout un ensemble de
ça
fonds.
C'est une fois que le monument ou le patrimoine, enfin le bâtiment a été choisi, sélectionné justement, mais tout le travail en amont, comment vous sélectionnez, comment vous dites Célia Véro à la Fondation du patrimoine, on va aider à restaurer tel ou tel endroit?
Alors on est très démocratique, voilà, il n'y a pas de grand patrimoine ou de petit patrimoine chez nous. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une vraie volonté d'agir, une implication locale.
Donc ça passe par le maire,
obligatoirement. Ça passe par le maire, mais les associations locales, très actives.
C'est mais
ça,
si moi, particulier, j'ai une petite ferme et que j'ai envie de la restaurer parce que...
C'est possible aussi.
Je vous contacte directement, comment
exactement.
Ça se passe?
On contacte notre antenne locale, notre délégation.
Vous êtes présent partout en France?
Exactement, oui, on est vraiment partout avec des bénévoles et aussi des salariés qui accompagnent les dossiers. Mais ce contact avec les bénévoles, ils se déplacent, ils vont voir les projets, ils conseillent le propriétaire. Une exigence très forte, évidemment, c'est la qualité patrimoniale.
C'est-à-dire et c'est quoi? Ça veut dire quoi, la qualité patrimoniale?
Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut restaurer les biens en fonction de leur qualité architecturale. Il y a des grands monuments, évidemment, les services de l'État vont donner leur accord ou pas aux travaux. Et puis, il y a les petits bâtiments qui sont anciens, on va dire par exemple une ferme. Il faut préserver l'intégrité du bâtiment. Ça ne veut pas dire restaurer exactement à l'identique. On n'a pas des absolutistes du patrimoine, mais il faut préserver la beauté et utiliser des techniques qui sont respectueuses. Alors en général, par exemple, on va préférer les fenêtres en bois, ça on l'avoue, mais il n'est pas forcément interdit de mettre du double vitrage pour améliorer la performance énergétique. Voilà, il y a une série de pratiques locales, parce qu'en fait, je veux dire, les bâtiments, ils ne sont pas pareils partout. En France, il y a des traditions, il y a des types de matériaux qu'on utilise. Aujourd'hui, on essaye aussi de travailler sur des rénovations patrimoniales qui peuvent être des éco-rénovations. C'est nécessaire. Mais c'est un ensemble de compromis qu'il faut faire entre différentes choses. Mais le budget de travaux pour le propriétaire et puis ce qu'on essaye d'obtenir.
Mais la décision finale, c'est vous qui l'avez. C'est la Fondation du patrimoine.
Alors, on n'est pas...
Pour la restauration ou non d'un...
Alors, nous, on ne fait pas les travaux. C'est le
non,
propriétaire qui est responsable.
Non, vous ne faites pas les travaux, mais donc, pour l'aide, pour l'accompagnement...
S'il veut notre aide, effectivement, nous décidons.
C'est vous. Vous avez déjà refusé des projets?
Oui, alors par exemple, on refuse des projets quand ils ne sont pas prêts. Par exemple, finalement, le budget est élevé, il faut aller solliciter des aides, on va attendre pour que ça soit le bon moment.
Ça veut dire qu'il faut que le dossier soit ficelé en fait, pour venir vous voir. Il faut qu'il y ait un architecte qui ait travaillé, il faut qu'on sache quels artisans on va faire intervenir.
Non, il n'a pas besoin d'être
fin de chaîne,
parce que justement, on va donner des conseils. Alors, pas sur le recours à tel ou tel artisan, ça c'est les propriétaires sont libres. Et puis dans les mairies, il y a ce qu'on appelle des marchés publics, alors il y a des procédures de mise en concurrence. Mais on va le conseiller par exemple sur le type de rénovation localement qui sont acceptées, qui sont qualitatives. On a aussi des critères qui ne sont pas des critères impératifs, mais qui font que ce sont des projets qu'on aime bien. C'est quand il y a une vraie vocation pour la réutilisation de ce bâtiment. Il va servir à quelque chose, que ce soit un projet économique, un projet social, un projet culturel. Car en fait, notre fondation, elle travaille pour la beauté du patrimoine, mais elle travaille surtout pour son utilité, c'est-à-dire en quoi ça sert à l'attractivité de ces zones rurales, en quoi ça sert à leur développement. Donc évidemment, quand on fait des travaux, on fait travailler des entreprises. Il y a un multiplicateur économique qui est très fort.
On va y revenir sur les entreprises.
Mais il y a aussi l'utilité du patrimoine.
Nathalie ?
Oui, je voulais savoir, est-ce qu'il y avait un top 10 des types de patrimoine qui ont plus besoin de vous ? J'ai l'impression que c'est les églises quand même, quand on regarde les projets, non ?
Alors, il y a une vraie réalité en France, c'est que d'une part, on a beaucoup de villages. Donc, comme on a beaucoup de villages, on a beaucoup d'églises.
On a d'églises. Beaucoup d'églises, forcément.
Voilà. On a beaucoup d'églises. Il y a une église au village. Centre de chaque village.
Parfois, de chaque village,
voilà. Voilà, il y a des chapelles.
C'est ce qui revient le plus. Vous, Nathalie a raison, non ? C'est ce qui revient le plus.
Et c'est ce qui revient le plus parce qu'il y a un vrai problème de financement qui est aussi lié au changement des pratiques religieuses. Donc, ce n'est pas facile de financer ces travaux lorsque le bâtiment il est
un peu
moins
déserté,
utilisé.
Bien sûr.
Parfois, il est fermé, donc on ne peut même plus le visiter parce qu'il n'y a personne pour ouvrir la porte quand il y a des visiteurs et pour sécuriser les biens qui sont à l'intérieur. Donc ça, c'est un vrai sujet dont on s'occupe. On va dire, peut-être oui, la majorité de nos projets, ce sont des églises. Pourtant, on est une organisation parfaitement laïque puisqu'on soutient aussi des temples protestants, des synagogues, tout type de patrimoine, qu'il soit religieux ou pas. Mais c'est une réalité du patrimoine en France, c'est que les églises sont un peu en danger. Et c'est quand même le centre de nos villages. Ce sont des repères géographiques. Hein. Quand on se promène dans la campagne en France, on les voit au loin. Voilà, c'est joli, c'est important, c'est notre histoire. Donc nous, on considère que c'est un combat légitime pour une organisation laïque de le pratiquer.
On va continuer à parler de notre beau patrimoine français ici à La France Bouge avec vous. Célia Véro, vous êtes la directrice générale de la Fondation du patrimoine.
Europe 1. La France Bouge. Elisabeth Assayag.
Et si vous nous rejoignez, bienvenue à La France Bouge, l'émission qui met en avant les entrepreneurs français, nos pépites françaises et aussi notre patrimoine aujourd'hui. Et oui, on a eu envie d'en savoir plus sur la Fondation du patrimoine et nous sommes ravis d'être avec vous, Célia Véro. Vous êtes la directrice générale de la Fondation du patrimoine. Alors, vous nous l'avez dit, hein, cette fondation qui existe depuis 25 ans fait en sorte de remettre à jour, de rénover des monuments, des églises dans des petits villages, dans des campagnes, pour que notre France soit plus belle partout et pas seulement dans les grandes villes. Et si on se promenait dans un lieu en étant en immersion sonore pour pouvoir encore plus s'imprégner de ce qu'était cet endroit à une certaine époque ? C'est ce que vous avez inventé, Laurence Giuliani. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être dans La France Bouge. Vous êtes la fondatrice de la start-up Aken. Aken, ça s'écrit A-2-K-E-N. Elle existe depuis 5 ans. Et alors vous, quand on regarde un petit peu... ce que vous faites, vous, votre mission, c'est d'interroger la part humaine des territoires. C'est bien cela ?
Absolument.
Qu'est-ce que ça signifie,
absolument,
interroger la part humaine de nos territoires ?
Oui, alors pour resituer un petit peu le contexte, il y a 5-6 ans en arrière, à Ken, je n'ai pas fondé cette société toute seule. Cette idée des balades sonores in situ, elle était portée par mes collègues auteurs, Pascal Imaro et Grégoire Gorbatchevski, qui avaient développé ce concept de balades sonores en parapluie géolocalisée.
Parapluie.
On va y revenir parce
d'accord.
que souvent, oui, tout à fait ça. Ça interroge, mais pour vous répondre sur la donnée humaine des territoires, l'envie très très forte, c'était celle d'aller se faire raconter la grande histoire des territoires par le biais des petites histoires des habitants qui détiennent comme ça une mémoire plus ou moins récente et qui nous permettent aussi, en tant que visiteurs, de venir se projeter de façon presque émotionnelle, affective, dans une histoire qui a été traversée comme ça par cette part humaine.
Alors moi, je trouve ça passionnant. Ça signifie quoi de traverser des lieux touristiques, nos patrimoines à nous, via des contenus audio, finalement, via ces balades sonores ? Qu'est-ce que ça signifie ?
Eh bien, ce que ça signifie, c'est qu'on a choisi de travailler autour du média sonore de façon exclusive, c'est-à-dire que les expériences que nous proposons ne s'appuient que sur le son et jamais sur l'image, parce que le média sonore, c'est d'abord le média de l'intime. Et je pense que les gens qui écoutent la radio comprennent bien ce que je suis en train de dire. Il y a vraiment quelque chose qui se crée quand on vient vous parler comme ça au creux de l'oreille, quelque chose de l'ordre de... Vous parliez de bulle tout à l'heure et c'est
Mais
vraiment
comme une bulle sonore,
finalement. Recherché.
Donc ça donne quoi ?
Absolument.
Ça donne quoi concrètement ?
Alors, mettez-vous dans la peau d'un visiteur, par exemple d'un visiteur de la Maladrerie Saint-Lazare à Beauvais, et je cite cet exemple de lieu de patrimoine sur lequel on a travaillé, parce que c'est un lieu qui a été financé par la Fondation du patrimoine, donc voilà, c'était pour reboucler. Donc imaginez-vous, vous êtes à Beauvais, vous vous rendez à la Maladrerie Saint-Lazare, qui est donc une ancienne éproserie, et puis on va vous remettre un objet connecté, qui est un objet du quotidien qui a été détourné, un parapluie, qui est géolocalisé et qui dispose d'un casque d'écoute. Vous allez partir avec votre casque sur les oreilles pour un moment, vraiment à vous, pendant lequel vous allez entendre un tissage de témoignages d'habitants, de personnes ressources, comme des guides conférenciers, des chargés du patrimoine, etc. Et puis, des créations bruitistes, sonores, musicales, qui ont été réalisées sur mesure pour le lieu dans lequel la balade se déroule.
Et quand vous dites que ça a été réalisé sur mesure, ça veut dire qu'il y a des personnes avec qui vous travaillez qui sont allées sur place, qui se sont imprégnées de l'ambiance. Comment est-ce qu'on crée comme ça des univers sonores sur mesure par rapport à un endroit très précis ? La maladrerie Saint-Lazare à Beauvais, c'est quand même hyper précis comme endroit.
C'est tout à fait précis et c'est bien la raison pour laquelle chez Aken, nous travaillons avec des auteurs, des compositeurs et des sound designers qui vont travailler en effet sur place, sous forme de résidence, pour se mettre à l'écoute de ce lieu. Au travers des interviews, comme je l'évoquais précédemment, mais aussi au travers de prises de son in situ, de véritables tournages audio. Et puis, c'est toute cette matière qui va donner lieu à être transformée en une création sonore qui va durer en moyenne une heure et quart, selon la typologie des lieux.
Et qu'est-ce que ça change pour le visiteur d'être dans une bulle sonore ?
Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la qualité d'écoute. Moi, j'ai souvent coutume de dire que chez Aken, on cherche à faire œuvre de médiation culturelle, à la fois parce qu'on vient transmettre une histoire au travers de ces petites histoires, mais on vient aussi proposer aux visiteurs de se reconnecter avec leur environnement direct. C'est aussi ce choix de dire qu'on supprime l'interface écran, et c'est la raison pour laquelle on utilise rarement, sinon jamais, des applications mobiles via des smartphones, parce que notre objectif, c'est vraiment de permettre aux visiteurs finalement de lever le nez et de se reconnecter à ce qui l'entoure. C'est la raison pour laquelle ces balades sonores sont géolocalisées, de manière à ce que, au gré de son déplacement, au gré du rythme de sa propre marche, le visiteur va venir déclencher des contenus sonores qui correspondent exactement à l'endroit où il se trouve.
C'est extraordinaire. Nathalie Carré, c'est tentant d'essayer.
Ah, mais complètement. Mais du coup, je m'imagine assez bien avec ce parapluie, etc. Mais du coup, moi, j'aurais plutôt envie de le partager avec les gens avec qui je visite, pas de l'avoir toute seule sur un casque, parce que ça crée des émotions. Les émotions, on a envie d'en parler, de le partager. Ouais. Voilà. Et là, le fait que ce soit un casque, ça ne nuit pas un peu à cet échange ?
Moi, j'entends complètement, Nathalie, cette remarque. Et on nous la fait régulièrement. On nous la fait toujours avant de vivre l'expérience, jamais après.
Ah, il faut qu'on le vive alors, Nathalie. Bah, c'est clair.
Tout à fait, faut essayer, c'est vraiment une expérience à vivre, mais c'est vrai que ça a été pensé comme une expérience individuelle mais au sein d'un collectif. Je compare souvent ça à une expérience finalement d'aller au cinéma, tout simplement. C'est-à-dire que pendant que vous regardez un film, sauf si vous êtes vraiment très bavard et que vous pouvez pas vous en empêcher, mais vous n'allez pas partager sur le moment, mais c'est bien
vrai.
Au
après,
moment de la fin du film, on débriefe au café ou à la maison ou autre. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et puis c'est vrai que il y a quand même beaucoup, et les auteurs y tiennent beaucoup aussi à créer des interactions entre les visiteurs, parce que vous partez jamais rarement tout seul avec votre objet connecté. Il y a toujours soit votre famille, vos amis, un petit groupe, et donc les auteurs s'amusent toujours à glisser des petites interactions de aller à trois, je me retourne et je fais un clin d'œil à mon voisin, et finalement cette espèce de petite communauté comme ça de parapluies ou d'objets connectés qui se baladent dans l'espace public, ça crée un collectif qui est un collectif insensible en fait, qui n'a pas d'interaction directe, mais où ce partage d'émotions a lieu quand même.
Qu'en pense notre témoin du jour, ce spécialiste du patrimoine, puisque vous êtes la directrice générale de la Fondation du patrimoine, Célia Véro ? C'est quand même ces immersions sonores, c'est étonnant. Hein ?
Alors, je suis très intéressée par cette proposition, aussi touchée par ce que vous avez dit, ce rapport entre la petite histoire et la grande histoire, parce que c'est exactement ce qu'on défend aussi. En fait, dans les zones rurales, les personnes qui habitent, elles se sentent éloignées un petit peu de tous les équipements culturels ou d'autres services. Évidemment, elles vivent dans des lieux magnifiques, mais il y a quand même ce rapport d'éloignement. Or, elles ont des livres d'histoire tout autour d'elles et des lieux qui vont raconter à la fois les grands moments de l'histoire de France, des épisodes glorieux, des épisodes plus sombres. Et on a besoin de savoir tout ça pour comprendre le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et notamment dans le contexte où il y a une guerre aux portes de l'Europe, on se dit mais pourquoi le patrimoine, en quoi c'est important? Mais il y a toute une fonction d'éducation et de transmission qui est fondamentale. Et ce que vous faites avec votre proposition d'expérience sonore, ça permet de raconter ce patrimoine et tous ces petits épisodes aux quatre coins de la France. Donc, vraiment très intéressée.
Donc, vous êtes intéressée, c'est intéressant. Laurence Giuliani, vous êtes la fondatrice d'Aken. La suite, c'est quoi ? Là, pour l'instant, c'est entrer sur le patrimoine. Ce serait peut-être aller sur tous les territoires ?
Alors, aujourd'hui, on travaille pour des lieux de patrimoine, mais également pour des musées et pour des destinations touristiques. Donc, on est vraiment dans ce champ du tourisme culturel. Et puis, Si on a démarré très fortement au travers des balades sonores in situ, petit à petit, on essaye de se mettre aussi à l'écoute des différents usages que les visiteurs et les adeptes de patrimoine et de culture peuvent avoir. Et donc, on développe de plus en plus des formats de podcasts pour le web. On a notamment réalisé récemment des podcasts pour le musée de Cluny, musée du Moyen-Âge et d'autres lieux en France. Donc voilà, on essaie de rester à l'écoute, sans mauvais jeu de mots, des usages actuels.
Des usages actuels. Vous êtes présent dans une vingtaine de lieux, hein, c'est ça aujourd'hui hein.
Oui, tout à fait. Ouais.
Une vingtaine de lieux. Ça s'appelle Aken, A2KEN. Merci Laurence Giuliani d'être venue aujourd'hui dans La France Bouge. Vous restez avec nous, Célia Véro, directrice générale de la Fondation du patrimoine.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
Bien sûr qu'elle bouge cette France. Et nous, on le voit chaque jour entre 13h et 14h autour d'un grand témoin du jour. Aujourd'hui, on parle de notre patrimoine grâce à vous, Célia Véro. Nous sommes ravis d'être avec vous. Vous êtes la directrice générale de la Fondation du patrimoine. Toujours à mes côtés, Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Célia Véro, vous nous l'avez dit depuis le début de l'émission. Donc vous, en fait, vous, tout est financé par les donateurs, par les mécènes, mais aussi par le loto du patrimoine. Est-ce que vous soutenez toutes les formes de patrimoine?
Exactement.
Toutes.
Donc évidemment, il y a beaucoup de bâtiments, mais il y a aussi du patrimoine des transports.
Patrimoine des transports.
Oui, alors c'est
quoi,
très passionnant. Il y a des passionnés des locomotives, des véhicules anciens, des vieux gréements. Donc ça, ça marche très bien. Il y a des associations qui vraiment se mobilisent pour ce genre de patrimoine. Mais aussi, en fait, depuis notre création, on soutient du patrimoine naturel. Donc, il y a un rapport étroit, en fait, entre les lieux où on vit et la nature qui est autour, avec différents degrés, puisqu'en fait, la France a été jardinée, comme on sait. Mmh. Hein, donc, il y a des parcs, des jardins, des espaces naturels. Et donc, au travers de ces actions, on va promouvoir la préservation de la biodiversité. Et on tient beaucoup à l'idée qu'il n'y a pas la nature et la culture qu'on va opposer. Ça marche ensemble, c'est le monde dans lequel on vit.
Donc, une fois le projet identifié, vous les accompagnez. Comment garantir la qualité des travaux? Parce que moi, je vois rien que pour une maison, c'est hyper compliqué, n'est-ce pas, Nathalie, de pouvoir suivre le chantier, que tout se passe bien, que tout soit aux normes, conforme aux demandes. Pour le patrimoine, comment ça se passe? Vous travaillez avec des experts? Comment est-ce que vous êtes organisé là-dessus?
Alors, tout d'abord, notre exigence essentielle, c'est que pour que le projet soit accepté, on nous soumette le programme de travaux.
Donc avec les devis
tout. Avec les devis, les parties de reconstruction qui ont été arrêtées par le propriétaire. Donc on peut lui demander de faire des modifications s'il souhaite notre aide, on peut le conseiller. Et puis on lui versera cette aide, effectivement, sur la base de travaux réalisés. Donc on garantit aux donateurs et aux mécènes que l'argent ira bien pour des travaux qui sont faits et qui ont été faits conformément au dossier présenté. Mmh. Alors évidemment, pour apprécier cette qualité de travaux, on va se reposer sur des experts. Donc, ça peut être nos bénévoles qui, pour un certain nombre, ont cette expérience du domaine de la construction. Parce que nos bénévoles, ce sont des gens qui ont travaillé dans le milieu économique, tout secteur. Mais bon, il y en a un certain nombre qui connaissent le monde des travaux. Et puis, il y a aussi les experts des services de l'État, des régions et des départements. Notamment, on s'appuie beaucoup sur ce qu'on appelle les UDAP. Hein, donc, ce sont les architectes des bâtiments de France qui, pour le patrimoine non protégé ou protégé, peuvent donner un avis. Dans certains cas, il est obligatoire. Donc, quand il est obligatoire, on va suivre leur opinion. Et quand ils donnent un avis sur du patrimoine non protégé, voilà, il peut y avoir une discussion avec le propriétaire sur ce qu'on cherche à obtenir exactement.
Nathalie.
Est-ce que vous avez des retours? Est-ce que vous avez déjà mesuré l'impact sur le tourisme, par exemple, d'une rénovation d'un lavoir, d'une église, etc.? Ou est-ce que, bon, je sais que ce n'est pas un critère, mais est-ce que vraiment il y a un impact réel qui sont remontés des propriétaires?
Alors, effectivement, on a fait en 2019-2020 une étude d'impact avec un cabinet indépendant qui porte sur les aspects, on va dire, économiques et sociaux. C'est-à-dire, qu'est-ce que la rénovation du patrimoine produit en termes économiques? Donc, ce qu'on a calculé, c'est que quand on met 1 euro de don pour le patrimoine, ça produit 21 euros de retombées économiques. Donc, un effet multiplicateur qui est important.
C'est
pourquoi
incroyable. 1 euro de don et 21 euros de retombées économiques.
Alors, ça s'explique par le fait que, d'abord, on fait des travaux. Et comme on sait, hein, quand le bâtiment va, tout va. Donc, quand on fait des travaux, ça produit beaucoup de création d'emplois. Surtout que la rénovation, c'est plus consommateur en emplois que la construction neuve. Bon. Ensuite, il y a des retombées indirectes qui est qu'une fois que le bâtiment va être utilisé ou que ce patrimoine va être restauré tout simplement pour être beau, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer du tourisme, de l'hôtellerie, du commerce. Mmh. Et donc, c'est un facteur d'attractivité à long
terme.
Pour
des territoires où il n'y avait peut-être beaucoup moins de touristes. Voilà. Là, maintenant, vous aussi, vous faites en sorte que ça revienne.
Voilà, exactement. Donc ça, on le mesure au global et on le voit concrètement hein, dans les lieux qu'on soutient. Et puis après, en termes de création d'emplois, par exemple, dans une année donnée, vu notre niveau d'intervention, on participe à la création ou maintien de 15 000 emplois en France.
Et donc vous êtes un véritable vecteur de relance économique.
Exactement.
Hein, c'est ça hein, aussi votre rôle. Vous le disiez tout à l'heure, donc il faut garantir la qualité des travaux. Vous travaillez avec des experts hein, affiliés à la Fondation du patrimoine. En ce moment, on assiste à une hausse du prix des matières premières. On le sait, ça concerne aussi le bâtiment. Comment vous faites pour, entre le moment où il y a le devis et le moment où on va mettre en place ces travaux? Parce que là, il y a une telle augmentation des prix que ça peut varier.
Alors, c'est un vrai défi du moment, c'est cette inflation, plus les difficultés d'approvisionnement.
D'appro.
Ça va probablement bloquer un certain nombre de projets.
C'est déjà le cas en ce moment?
On considère qu'effectivement, il y a un petit ralentissement aussi hein, dans les crédits immobiliers, les banques le mesurent. Donc, nous, il faut qu'on s'adapte pour aller plus vite, y compris les experts qu'on sollicite. Donc, on va commencer à travailler pour que nos process soient plus rapides.
C'est-à-dire qu'entre le moment où vous présente le devis et le moment où on passe à l'acte, le temps moyen qui s'écoule, c'est quoi?
En général, nous, on va assez vite, mais il ne faut pas se leurrer sur le fait qu'en France, quand on fait des travaux, il faut des autorisations administratives, des permis de construire. Quand on est une commune, il faut faire un marché public, etc. Donc, en fait, il y a un ensemble de choses à faire qui peut être assez complexe. Et il faut absolument qu'on arrive à raccourcir ces délais pour que le patrimoine soit restauré plus vite. Évidemment, on a toujours compté sur le temps long, mais ce temps long, il nous pénalise parce qu'en fait, avec le même argent, on pourra faire moins. Ça, c'est vraiment dommage.
Donc, il faut agir beaucoup plus rapidement en ce moment à cause de cette hausse des prix des matières premières et de l'approvisionnement. Ce qui vous intéresse prioritairement à la Fondation du patrimoine, ce sont les zones rurales. Hein. 80% de vos projets sont situés dans des communes de moins de 200 habitants. Est-ce qu'il y a des projets en ce moment qui sont en cours? Et surtout, une fois quand c'est dans des zones aussi reculées, comment vous faites pour trouver les bons professionnels? Parfois, vous en faites venir, ils ne sont pas tous forcément à côté. Donc là aussi, il y a un défi à relever.
Alors, effectivement, notre priorité depuis toujours, ça a été de restaurer le patrimoine dans les zones rurales et puis les petits bourgs, hein, parce qu'on a aussi cette problématique de revitalisation de petits bourgs en France, de villes moyennes. On a beaucoup de mécènes qui nous soutiennent. Récemment, un nouveau mécène qui s'appelle Airbnb, que tout le monde connaît.
Mais oui, 5,6 millions d'euros.
Voilà, qui nous soutient pour des projets qui reflètent les possibilités de développer le tourisme vert en France. Finalement, à l'occasion de la crise sanitaire, on a tous redécouvert nos campagnes et le plaisir de se balader en France. Et il y a des communes, il y a des propriétaires privés qui vont faire des aménagements chez eux pour pouvoir offrir des occasions d'accueil touristique. Donc, on a commencé déjà à sélectionner des projets avec Airbnb. Il y a des fermes à colombages en Alsace. Il y a des maisons médiévales près de Chinon. Enfin, voilà, il y a un ensemble de projets. Ça sera 200 projets en 3 ans. Donc, on est très heureux de cette nouvelle opportunité pour soutenir du patrimoine.
Chaque jour dans La France Bouge, Célia Véro, on aime revenir sur l'histoire aussi d'une marque, d'une entreprise, d'une association ou d'un endroit qui traverse les années, qui sont toujours là en France. Ça tombe bien aujourd'hui dans cette émission dédiée au patrimoine. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la Maison du Vitrail. Vous ne les connaissez peut-être pas, mais par exemple la coupole au sein des Galeries Lafayette, eh bien c'est eux, ce sont des maîtres verriers. Et c'est la saga du jour racontée aujourd'hui par Quentin Paillet.
Europe 1. La France bouge, la saga.
Nous sommes en plein cœur de Paris, dans le 15e arrondissement. Ici se cache l'une des 1200 entreprises de restauration et de création de vitraux que compte la France, la Maison du Vitrail. C'est d'abord une boutique anodine, classique, et derrière, on découvre un atelier où s'affairent une dizaine de maîtres verriers. C'est en 1973 que Christiane et Philippe Andrieux créent la Maison du Vitrail. Tous les deux sont maîtres verriers. Et aujourd'hui, l'entreprise, dont ils ont passé les rênes à leur fille en 2015, compte 14 personnes. Emmanuel Andrieux, maître verrier à la Maison du Vitrail, est deuxième génération à la tête de l'entreprise.
Quand on est maître verrier, on commence de la maquette et on va jusqu'à la pose, en passant par toutes les complexités et toutes les étapes que l'on peut rencontrer entre-temps. Donc ça va être du tracé, la coupe de verre, le montage, la peinture, la pose bien sûr. Donc voilà, un maître verrier doit être capable de passer à tous les postes et de maîtriser ses connaissances.
Ici, dans l'atelier, tout est fait pour prendre soin du verre. On coupe, on taille, on assemble. Les maîtres verriers s'activent. Certains restaurent des pièces, d'autres créent. La Maison du Vitrail réalise environ 600 chantiers par an, partout en France, mais aussi à l'étranger. Remplacer un carreau chez un particulier, créer une verrière dans un appartement. D'autres chantiers sont plus impressionnants, comme la rénovation complète de la coupole des Galeries Lafayette ou comme ce vitrail pour la cathédrale Saint-Louis de Versailles.
Donc ça, c'est un vitrail qui a été remonté en partie, changé les pièces cassées et là, on l'a mastiqué. Donc le mastic vient pour rendre le panneau étanche et le durcir. Donc c'est la phase qui se passe ici et qui n'est pas forcément la plus ragoûtante, mais extrêmement importante.
Plus qu'une passion pour Emmanuel Andrieux, le verre, c'est une vocation familiale et très personnelle.
Le verre est une matière somptueuse, c'est une matière délicate, mais en même temps, c'est une matière qui est tellement dure et tellement abominable à certains moments. On a envie de tout jeter quand il y a un verre qui vous tient tête. Et donc, à la fin, vous calmez et puis il faut le dompter. On est un peu des dompteurs. Hein. Et notre métier en restauration, c'est de ne pas voir notre passage. On va s'effacer derrière le travail de notre ancêtre. Et en même temps, on va lui redonner vie, comme si on lui donnait un autre souffle, une résurrection. Et c'est vraiment notre but en restauration. Et que ce soit de la petite restauration ou de la grande, on travaillera toujours avec le même savoir-faire et la même envie.
La France, pays de cathédrales, a la plus grande surface de vitraux dans le monde, environ 90 000 mètres carrés. C'est simple, 60% du patrimoine mondial de vitrail est en France.
Et merci Quentin Paillet, c'était la saga du jour. Célia Véro, vous êtes la directrice générale de la Fondation du Patrimoine. On était en train de découvrir cette belle histoire de la Maison du Vitrail qui existe depuis 1973. Vous aussi, à la Fondation du Patrimoine, vous avez des projets seulement dédiés à ces maîtres verriers, à ce vitrail?
Oui, effectivement, on est très heureux au travers des travaux de restauration du patrimoine, de soutenir les métiers d'art, parce qu'en fait, c'est une forme
d'écosystème. Ce sont des métiers. Hein.
C'est un écosystème. Mmh. Si le métier n'existe plus, le bâtiment ne peut plus être sauvé.
Bien sûr.
Donc, évidemment, il y a des vitraux dans la plupart des églises. Et il y a bien des cas où, par exemple, il faut restaurer la rosace, comme à Rouen, il y a une grande collecte actuellement en cours pour l'église abbatiale de Rouen. Il y a des belles histoires aussi. Par exemple, à Dol de Bretagne, on a une cathédrale que l'on est en train d'aider à restaurer. Et lorsque Notre-Dame a brûlé, l'écrivain anglais Ken Follett est venu nous voir en disant « Je vais écrire un livre sur Notre-Dame. Le bénéfice de ce livre iront à la Fondation du Patrimoine. Qu'est-ce qu'il faut sauver ?» Et on lui a dit « Bah, aidez donc une autre cathédrale.
Oui. »
Voilà. Et Notre-Dame, l'émotion de Notre-Dame a servi à financer cette autre cathédrale qui est ancienne, qui est très belle et qui est dans une petite ville, Dol de Bretagne, hein, c'est pas une très grande ville, mais qui tient beaucoup à ce patrimoine et qui en plus vraiment l'a fait visiter. Et donc il y a à la fois le bâtiment, la toiture et puis les vitraux.
Justement, vous êtes en train d'évoquer, Célia Véro, l'une des réhabilitations les plus emblématiques, hein, c'est-à-dire Notre-Dame. Ça en est où? Il y a eu 830 millions d'euros de dons collectés, c'est bien ça, hein. Donc toutes les promesses de dons ont été tenues?
Absolument.
Quel profil des donateurs concernant concernant Notre-Dame, hein, ça a soulevé énormément d'émotions, il y a eu des dons du monde entier.
Alors, cette collecte, on représente, nous, avec... Il y a deux autres fondations aussi qui ont collecté. On représente, nous, 60% des donateurs en nombre. Et en montant, si on met à part les grandes fortunes, hein, françaises qui ont donné pour Notre-Dame de Paris. Et on a recueilli des dons de 1 euro à 100 millions d'euros. Voilà. Donc, en fait, c'est toute une population, c'est toute une démocratie de donateurs, des Français, des étrangers... des personnes qui nous ont envoyé leur épargne ou même leur tirelire, hein, des enfants qui nous ont envoyé leur tirelire. Je me rappelle de cette lettre d'une petite fille anglaise, hein, qui m'a dit voilà, je vous envoie ce qu'il y a dans ma tirelire parce que ça, je suis très émue. Et puis des grandes entreprises françaises ou internationales qui ont décidé de dédier des sommes qui sont extraordinaires, qui sont hors normes par rapport à la mobilisation du mécénat. Qu'est-ce que ça nous dit? Il y a des trésors en France de générosité qui peuvent être mobilisés. Et à la fois, bah, c'est des solutions financières, parce que ce qui s'est passé, c'est que Notre-Dame brûle, donc un moment d'effroi. Et dans les 3 jours, la société civile trouve les solutions pour la sauver. Et oui, ça, c'est formidable.
Et vous êtes là aujourd'hui pour nous en parler, Célia Véro, directrice générale de la Fondation du patrimoine. Vous restez avec nous. On va découvrir dans un instant une application qui rend accessible l'information culturelle pour toutes sortes de publics. À tout de suite.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
C'est parti pour les trophées Europe 1 de l'avenir. Chaque jour, elles ou ils exposent leur projet d'entreprise. Ils ont une minute pour convaincre notre témoin du jour. Aujourd'hui, elle est exigeante, elle est attentive, elle est bienveillante et c'est une experte puisque c'est Célia Véro. Vous êtes la directrice générale de la Fondation du patrimoine. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré de la CCI. Et aujourd'hui, on va vous présenter un projet qui a été lancé au début de l'année. Bonjour Johan Bourg.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous avez 51 ans, vous avez créé Graal, G-R-A-2-L.
Deux L, oui,
c'est
pour aller plus haut.
Première application qui rend l'information culturelle accessible à toutes les personnes atteintes de handicap. Vous êtes un autodidacte, vous avez travaillé longtemps à Tahiti et là-bas, vous avez découvert la technologie LiFi, c'est-à-dire l'Internet par la lumière.
Entre autres, oui.
Ça vous a donné une très très belle idée qui est Graal. Vous allez nous raconter ce qu'est Graal. C'est parti, vous avez une minute pour le pitch.
Alors tout d'abord, nous avons fait le constat que nous avons réalisé, c'est que vous avez plus de 34 000 communes en France ayant tout un patrimoine riche. Plus de 3 000 musées et des dizaines de sites culturels aux quatre coins du monde, jusqu'en Polynésie. Avec pour chacun d'entre eux des solutions différentes pour parler de leur histoire. Ce qui, vous l'admettrez, ne rend pas l'exercice facile pour les 90 millions de visiteurs qui viennent nous voir. De plus, ces outils sont inaccessibles pour le public en situation d'empêchement et ne parlent souvent que le français, l'espagnol ou l'anglais. Alors nous avons décidé de créer une solution pour unir l'information culturelle au travers d'une application unique qui s'appelle Graal, destinée donc aux villes, aux villages, aux musées, aux cantons, aux responsables culturels, aux offices de tourisme, mais aussi en leur offrant gratuitement une solution sur mesure multimédia pour raconter, partager leur histoire, au mettre près à l'intérieur comme à l'extérieur, et ainsi enrichir l'expérience de leurs visiteurs de manière simple, instantanée, avec ou sans connexion.
C'est parfait, on a tout compris. Ce qu'était Graal, donc cette application qui permet de rendre tout notre patrimoine culturel, nos musées, etc., accessible à tous.
À tous et dans toutes les langues.
Et dans toutes les langues, et ça c'est hyper important. Qu'en pense Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie? Nathalie, quelles sont les forces et les faiblesses de Graal?
Ce qui est déjà hyper intéressant, c'est qu'en fait vous avez développé une nouvelle technologie qui fait fi de la barrière de la langue ou des problèmes de connexion, puisqu'on peut aussi télécharger notre contenu depuis notre hôtel quand on a une carte SIM qui est étrangère et puis réutilisée à l'extérieur. Comme vous avez un Google Maps augmenté, accessible partout et pour tous, bravo. Puis comme Google, votre matière première, c'est l'information. Donc les usages sont nombreux. Là, vous avez parlé du tourisme, mais ça peut être aussi un partage d'informations sur un chantier en construction, ça peut être de la formation sur le lieu de travail, évidemment, donc le tourisme et bien d'autres utilisations, ce qui fait un beau potentiel de développement pour l'entreprise. Et puis, c'est important aujourd'hui pour tous, votre solution a un impact écologique nettement moindre que d'autres solutions comme le moteur de recherche, et ça compte aujourd'hui. Alors, pas de point amélioré, mais quelques remarques. Déjà, une remarque pour l'usage touristique. J'ai téléchargé votre appli, j'ai saisi Place de l'Opéra, par exemple. Donc, on voit une carte avec la place et tout ce qu'il y a autour, et puis on voit les points Graal. Il y en a pour le printemps, pour un musée, pour une entreprise, etc. Mais en fait, impossible d'avoir des informations sur ces lieux. Il faut se trouver, en fait, devant le lieu pour que l'information s'ouvre. Alors, vu qu'une majorité de touristes préparent leurs vacances, leurs visites, peut-être qu'il faudrait quand même une première info simple qui permettrait de savoir si ça nous intéresse ou pas de visiter. Encore plus si on veut télécharger les infos, donc avant d'aller se promener, puisque notre téléphone ne peut pas être utilisé à l'extérieur, par exemple, hors Wi-Fi. Et puis, votre application, en fait, elle est faite pour les professionnels, un musée par exemple, mais au service des individus. Et comme vous le dites, sur votre site, en tout cas, il y a un potentiel infini d'usage. Alors, n'hésitez pas à illustrer cette infinité d'usage avec des cas, d'autant que vous avez déjà des clients, et expliquer de façon détaillée la problématique du client, la solution mise en place, le temps passé par votre client, la formation de ses équipes et surtout l'impact. Des éléments très concrets qui permettent qu'un responsable de communication d'un lieu touristique, par exemple, se dise « Oh là, super, c'est facile, on peut gérer ça et ça sera utile pour nos clients ». Et puis, vu que les usages sont nombreux, les fonctionnalités aussi, c'est pas simple de se faire connaître sur un champ d'action aussi vaste. Votre slogan, c'est « Diffuser la bonne information à la bonne personne, au bon endroit, au bon moment ». Vous pourriez peut-être décliner ce slogan avec des marques par secteur d'activité. Par exemple, pourrait y avoir un Graal Tourisme qui informe les touristes sur la magie des lieux quand ils veulent dans la langue qu'ils veulent. Un Graal Éducation qui forme les équipes sur leur lieu de travail au bon moment pour la certitude d'un geste professionnel sans faute, etc., etc. L'idée, c'est de s'adresser à chacun de vos marchés en leur parlant directement, mettre en avant l'avantage que votre solution présente pour eux et juste pour eux. Vous connaissez l'adage, parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Et là, on est tous pareils. Hein. Puis surtout, leur démontrer la simplicité d'utilisation de votre solution et son impact. Car certes, trop d'infos tue l'info, mais pas assez, ben, c'est pas assez non plus.
Eh bien, merci beaucoup. Je le trouve très éclairant. C'est
elle
la bonne information. Anne, elle est merveilleuse. Franchement,
elle, mais elle pourrait travailler avec toutes les startups qui viennent chez nous tous les jours.
De toute façon, il faut monter une radio peut-être pour pouvoir la recruter. Mais si un jour elle cherche, je serais heureux de pouvoir participer, de pouvoir profiter de sa lumière. Elle est vraiment très pertinente.
Alors,
vraiment.
Justement, dans tout ce que vous a dit Nathalie Carré.
Alors, c'est la multitude d'usages dans ce qu'elle nous a dit. Évidemment, il faut recentrer les cas d'usage avec la pertinence de l'usage de l'application. C'est pour ça qu'on s'est concentré sur la culture. Il y a un vrai manque d'accessibilité à la culture. Ce qu'on vous dit, en vérité, les bâtiments, comme ici on nous reçoit, c'est l'accès pour un fauteuil roulant, mais il n'a pas accès à l'information. Et c'est ça notre pertinence, c'est de rendre l'information accessible à tous et dans toutes les langues. Et gratuitement. Et surtout, sans prendre les données des gens. Vous téléchargez Graal, ce qu'elle a pu constater, c'est qu'en téléchargeant Graal, on ne lui a pas demandé son mail, ni qui elle était, ni où elle habitait, et rien. Mmh. Et donc, on a un impact, de ce qu'on appelle « data free » dans le franglais. On ne prend pas les données des gens. Et en plus, pour tout point d'information concret, on plante un arbre.
Ça, c'est un point rassurant. Vous, aujourd'hui, vous travaillez, Johan, avec des musées, avec des mairies, mais aussi avec des offices du tourisme.
Oui, quelques-uns. D'ailleurs, je profite de l'antenne pour leur parler, leur dire on a le meilleur outil, vous n'avez plus d'excuses pour rendre l'information culturelle accessible à tous et dans toutes les langues. C'est gratuit, faites-le. Vous allez rendre plein de gens heureux. Et puis, en même temps, c'est 100% français. Et en même temps, vous avez un impact écologique, puisque pour chaque point d'information, on plante un arbre.
On plante un arbre. Aujourd'hui, vous avez effectué une levée de fonds, là, récemment.
Alors, nous sommes nés en 2016. Nous sommes nés en 2016. Depuis 2016, on a levé 2 millions d'euros pour faire de l'acquisition de brevets, pour rendre aussi accessible l'ensemble des technologies au mètre près à l'intérieur des bâtiments. Et là, on fait une levée entre 500 et 1 million pour recruter un maximum de personnes. On a une quinzaine de personnes à recruter là d'ici 2023 en espérant être rentable en cette fin d'année.
Qu'en pense Célia Véro, directrice générale de la Fondation du patrimoine ? Vous pourriez même travailler ensemble. En
vrai. Ah bah oui, on va se rappeler après l'émission.
Ah,
merci
voilà,
beaucoup.
C'est fait pour ça.
Parce que nous, on travaille pour que la beauté soit appréciée par tout le monde. Hein. C'est Victor Hugo qui a dit ça et c'est notre inspiration. Et on a soutenu un lieu patrimonial tous les 4 km en France. Donc il y a de quoi faire.
Écoutez, c'est un joli trait d'union.
Oui, on est là pour ça. On va vous laisser parler hors antenne. Merci à vous. Johan Bourg, vous êtes le fondateur de Graal, G-R-A-2-L. Merci d'être venu aujourd'hui dans La France Bouge. Et puis, chers auditeurs, si vous aussi, vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise, si vous avez envie de venir pitcher, il n'y a qu'une seule adresse, Nathalie.
Et c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr et premier juré. Charlotte Barricon et moi, on lit toutes les candidatures.
Vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir. Votez en ce moment pour le coup de cœur des auditeurs. Notre cérémonie aura lieu le 29 juin et c'est le moment de voter pour désigner, pour choisir le lauréat des trophées de l'avenir. Vous restez avec nous sur Europe 1. À suivre demain au travail, on va passer un coup de fil à une start-up qui fait en sorte de sensibiliser les salariés des entreprises à l'art. Et oui, et en plus ça marche. À tout de suite pour découvrir son histoire.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
La France bouge, c'est déjà la dernière partie de votre émission. Célia Véro, vous êtes avec nous. Vous êtes la directrice générale de la Fondation du patrimoine, toujours avec Nathalie Carré en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Et nous, à La France bouge, on aime mettre en avant les entreprises qui placent le capital humain au cœur de leurs préoccupations, comme vous, Gaëlle Viegas. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente et la fondatrice d'Omart. Ça s'écrit O-M-A-R-T, Omart. C'est une toute jeune entreprise à mission dont l'objectif, c'est de sensibiliser les salariés à l'art. Hein. C'est un collectif d'artistes qui existe depuis à peine un an et quelques mois.
Exactement. La raison d'être de Omart, alors dont le nom provient de la contraction de home et art, a pour raison d'être d'aller tout d'abord découvrir, soutenir et promouvoir la nouvelle scène artistique. Et on a décidé effectivement de s'appuyer sur l'entreprise pour jouer la caisse de résonance du talent de ces artistes et ainsi transformer les espaces de travail en lieu d'exposition.
Mais quelle bonne idée. C'est vrai qu'on en a assez de voir des murs blancs, des décorations nordiques. On a envie de découvrir autre chose. Et vous, justement, vous êtes une solution là-dessus. Ça veut dire quoi? Vous faites des expositions temporaires dans des entreprises? Vous placez des tableaux? Comment ça s'organise?
Eh bien, tout à fait. On propose aux entreprises, en fait, moyennant un petit abonnement, de pouvoir tous les mois accueillir un nouveau triptyque du même artiste, hein, donc de notre collectif, qui est renouvelé tous les mois. Et tous les mois, c'est donc une nouvelle surprise, une nouvelle invitation à découvrir un univers, une technique et surtout un nouvel artiste.
Alors ça, c'est du côté des artistes. Nous, ce qui nous intéresse à la France Bouge, c'est du côté des salariés. Comment ça réagit dans les entreprises? Est-ce que c'est pour fédérer les collaborateurs? Quand on vient vers vous, quel est l'objectif final?
Eh ben alors déjà, le tout premier, c'est de pouvoir effectivement apporter l'art au sein de l'entreprise, qui est malheureusement effectivement très souvent plutôt passé au second plan, pour ne pas dire pas du tout étudié et pensé. Et ce rendez-vous justement de l'arrivée de notre roadman qui vient mettre le triptyque en entreprise, c'est devenu un rendez-vous. Et c'est vraiment le souhait en fait du dirigeant de pouvoir avoir un côté fédérateur en fait autour de ce service artistique apporté par Omar. Et on a comme ça des lieux qui sont vivants, qui sont changeants, qui sont vraiment inspirants et enrichissants pour les collaborateurs.
Et c'est quoi les retours des salariés? Vos interlocuteurs entreprises,
ils vous disent quoi? Ils adorent. Ouais. Vraiment, les collaborateurs sont ravis parce que ça leur permet d'échanger un point de vue, un ressenti sur un artiste. Et étant donné qu'on est encore sur des jeunes artistes, et ben tout le monde se permet librement de s'exprimer, d'émettre un j'aime pas, je connais pas, tiens cette technique, je serais pas forcément allée naturellement. Et ben là, c'est une fois encore un point de rendez-vous, un point de rencontre autour de l'art en entreprise.
Nathalie Carré, c'est une bonne idée pour les entreprises que vous accompagnez au sein des CCI?
Oui, mais je me demandais si, du coup, les salariés qui peignent, ils ont peut-être envie aussi, du coup, moi aussi, mes tableaux pourraient être exposés, non? Vous avez jamais eu cette demande?
Alors, c'est rigolo. Si, on l'a eu, et justement, alors, beaucoup, le triptyque trouve place aussi bien dans des halls d'accueil, des salles de réunion, également des espaces bien-être, où justement, on voit fleurir aux côtés des triptyques des artistes, des réalisations des collaborateurs qui, eux aussi, souhaitent justement avoir d'autres regards que le leur qui viennent se poser sur leur tableau.
Créer un lien culturel au sein même des entreprises, parce que finalement ça permet aussi, effectivement, vous le disiez Gaëlle Viegas, de créer des discussions, ça crée du lien entre collaborateurs. Merci à vous d'avoir témoigné dans La France Bouge, Gaëlle Viegas. Je rappelle que vous êtes la présidente et fondatrice d'Omar. C'est déjà la fin de votre émission. Célia Véro, merci. Vous êtes la directrice générale de la Fondation du patrimoine. Merci d'être venue aujourd'hui dans La France Bouge.
Merci beaucoup.
Grâce à vous, on en sait beaucoup plus sur notre patrimoine en France. Et grâce à vous, on sait que la France sera encore plus belle. Nathalie Carré, nous, on se retrouve demain.
À demain.
Demain, Nathalie, vous savez qu'on va manger des bonbons.
On va manger des bonbons.
Mais oui, avec un géant des bonbons en France. C'est le patron de Carambarenco qui sera lui aussi autour de la table de La France Bouge. À demain, dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelade.